On est dans les fusions. Chaque année, avec le groupe des ados, lors de la première classe, on n'a pas forcément de sujet préparé. Je leur donne l'occasion de nous donner des sujets sur lesquels ils veulent qu'on réfléchisse ensemble. Et chaque année, il y a des sujets récurrents, des sujets que, bon, évidemment, enfin, hélas, on n'a pas le temps de voir tous les sujets puisqu'on n'a pas l'occasion de faire toutes les classes, car ils ne sont pas là à toutes les classes. Mais on a quand même des sujets qui reviennent régulièrement, comme les relations entre les garçons et les filles, la théorie de l'évolution, le baptême, etc. On a vraiment plusieurs sujets. Et ils ont parfois des questions qui sont très intéressantes. Et l'une d'entre elles qu'on a vue cette année ensemble, c'est une question: comment ne pas se laisser distraire par les loisirs et garder du temps pour Dieu ? Je répète, comment ne pas se laisser distraire par les loisirs et garder du temps pour Dieu ? C'est une question qui peut étonner au premier abord, et je ne vous cache pas que j'ai pris cette question un petit peu de haut au départ. Mais comment mettre en concurrence des loisirs et du temps pour Dieu ? Ça n'a vraiment aucun sens. Il fallait vraiment que je leur mette les idées en place. Une méthode qui me plaît, et bon, plusieurs d'entre vous la connaissent, c'est de faire un classement. Je leur ai donc demandé de classer dans l'ordre d'intérêt une liste de centres d'intérêt. Alors dans cette liste de centres d'intérêt, il y avait les études, le travail, le sport, la musique, dormir, la famille, la télé, le cinéma, Dieu, Facebook, YouTube, la prière, les amis, le groupe de jeunes, etc. Et ils en sont donc arrivés à un classement en ordre d'importance. Je leur ai ensuite demandé de reprendre tous ces centres d'intérêt, le classement qu'ils venaient de faire, et de recommencer ce classement en fonction du temps qu'ils y accordaient. Et là, évidemment, la liste changeait. Et si, par acquis de conscience, certains avaient mis Dieu ou la prière dans les premiers thèmes, ou alors même la lecture de la Bible, ils étaient obligés de constater que le temps qu'ils accordaient à ces choses-là était vraiment très peu. Et voilà, c'est QFD. Vous ne passez pas assez de temps avec Dieu. Donc il faut plus prier, il faut plus lire sa Bible, etc. Je voudrais dire que peut-être le diagnostic était bon, mais même pas. La manière même de poser cette question est mauvaise. Et une chose choquante dans ce que j'ai proposé dans un premier temps, c'était de classer la lecture de la Bible, la prière, la méditation avec Dieu comme une activité ou un centre d'intérêt comme un autre. Le piège dans lequel je suis tombé et dans lequel ils étaient également, c'est de compartimenter nos vies. Notre présence ici ce matin, le fait de communier au corps et au sang de Christ, tout cela peut-il rester sans conséquence dans nos vies ? Se poser la question de comment aménager du temps pour Dieu, c'est intégrer le fait qu'au départ, il ne fait pas partie des plans. Je voudrais maintenant vous montrer une vidéo que je leur ai montrée. C'est un test de conscience. Awareness test. Alors, je vais vous demander d'être très attentif. Ça va être très rapide. Ceux qui connaissent déjà, merci de ne pas donner les réponses. Hop, attendez. C'est déjà parti. Hop. Alors la question, c'est combien de passes se fait l'équipe qui est habillée en blanc? Alors comptez bien. Est-ce que tout le monde a bien eu le temps de voir? Alors il y a un contre-jour, je vais le mettre une deuxième fois. Éteindre la lumière, ouais. Que l'équipe en blanc se fait entre eux. Ouais. Alors, il faut compter. Non, pas les noirs, juste ceux qui sont habillés en blanc. Alors, faites bien attention au nombre de passes, s'il vous plaît. Alors, j'entendais Rosa compter. Est-ce que vous avez la solution?
12.
Combien? Alors, la réponse, c'est 13. Hein? La réponse, c'est 13. Ouais, il y en a qui sont un petit peu cachés. Hein. Donc, on continue la vidéo. La réponse, c'est 13. Par contre, est-ce que vous avez manqué un détail? Dans cette vidéo.
Il y a deux ballons.
Alors oui, il y a deux ballons. Mais est-ce que vous n'avez pas manqué quelque chose au milieu?
Un ours.
Alors regardez bien la vidéo. On le voit là.
Là, il y a une ours
qui fait du moonwalking. Il est facile de manquer quelque chose que l'on ne cherche pas. Voilà le message de cette vidéo. Il est facile de manquer quelque chose que l'on ne recherche pas. Pendant que votre attention était fixée sur le nombre de passes que se faisait l'équipe en blanc, un nounours, qui n'avait absolument rien à voir avec la vidéo, s'est mis à faire du moonwalking en plein milieu de la scène. Évidemment, il sera difficile à chacun d'entre nous de trouver la lecture de la Bible ou la prière en haut du classement en fonction du temps, et cela même avec une discipline de fer. Et il sera d'autant plus facile, et ça m'arrive souvent, de manquer mes jours de lecture. Mais seulement, au-delà d'une discipline de fer, la parole nous enseigne qu'il nous faut changer de perspective, changer de logiciel, changer notre vision des choses. En Colossiens chapitre 3, au verset 1 et 2, nous lisons « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Paul pose un postulat. Puisque nous sommes ressuscités, si donc nous sommes ressuscités, alors puisque nous sommes ressuscités, alors nous sommes morts pour les choses d'en bas. Puisque nous sommes ressuscités, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Puisque nous sommes ressuscités, nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si nous sommes ressuscités, alors les choses d'en bas ne monopolisent plus notre attention. Mais nous avons en ligne de mire la vie éternelle avec Christ. Comme le disait Vance, Dieu nous appelle tels que nous sommes. C'est comme la pub McDo qui nous dit « Venez comme vous êtes ». C'est évident que le Seigneur appelle à lui toute sa création, tous les hommes, et les femmes qui se savent pécheurs. Seulement, nous sommes appelés tels que nous sommes, mais nous ne pouvons pas rester tels quels. Toujours en Colossiens, au chapitre 1, versets 9 et 10, Paul exhorte « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous vous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. » Le Seigneur nous appelle tels que nous sommes, mais lorsque nous acceptons son appel et décidons de lui appartenir, nous décidons aussi de décloisonner nos vies. Il n'y a plus aucun recoin de notre vie qui doit lui rester caché. Poser la question en ces termes, comment aménager du temps pour Dieu? Comment faire de la place? Comment garder du temps pour Dieu? C'est continuer de raisonner vis-à-vis du Seigneur comme un invité dans nos vies. Nous lui disons bienvenue quand il se présente avec son carton d'invitation, mais passé une certaine heure, on trouve presque mal élevé qu'il ne soit pas encore parti. On commence à regarder sa montre, à faire un petit peu de ménage, hein, c'est la technique pour faire partir les gens, histoire de faire comprendre qu'il est temps de s'en aller. J'aime l'histoire de cette vieille dame en Angleterre qui aimait parler sans cesse de Jésus à tous ses voisins. Elle saisissait chaque occasion pour parler de ce qu'il avait fait pour elle, le salut auquel elle avait accès grâce à son sacrifice. Elle ne cessait pas de dire que Jésus était la personne la plus importante de sa vie. Et il y avait même un écriteau à l'entrée de sa maison qui disait, sur lequel était écrit « Jésus-Christ vit dans cette maison ». Un jour, la reine, qui était en tournée dans le pays et qui avait l'habitude de s'arrêter chez les habitants, décida d'aller prendre le thé chez cette vieille dame. Le jour où la reine était là, dans sa maison, les voisins cherchèrent à la piéger en lui demandant, en présence de la reine, quel était l'invité le plus important qu'elle avait reçu dans sa maison. Ça aurait été une grave offense pour la reine que ce ne soit pas elle. Et la vieille dame répondit que la reine était bien entendu l'invitée la plus importante et la plus prestigieuse qu'elle avait été amenée à recevoir. Alors ses voisins, qui étaient réjouis qu'elle n'ait pas répondu à Jésus-Christ, allaient lui faire la remarque. Ah ! Quand elle a continué en disant « La reine est l'invitée la plus prestigieuse que j'ai reçue. Mais Jésus-Christ n'est pas un invité dans cette maison, il en est le maître. » Jésus-Christ est-il un invité dans nos vies? Est-ce qu'on manque d'attention au point de ne pas voir l'ours qui fait du moonwalk dans notre vie? Si ce n'était uniquement de la discipline, le Seigneur nous appellerait à faire le vœu de Naziréa. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le vœu de Naziréa? Non, c'est l'inverse. Alors on le voit en Nombre chapitre 6, le vœu de Naziréa. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. » Le Seigneur ne nous appelle plus aujourd'hui à faire ce genre de gestes. Et on peut remarquer d'ailleurs que le Naziréen, celui qui a fait le Naziréat parfait, c'est Jésus-Christ, qui était saint, innocent et sans tache, séparé du péché et totalement consacré à Dieu. Il a pris sur lui nos fautes et nous a délivrés de la loi. Si nous ne sommes plus appelés à faire le Naziréat, nous sommes appelés à faire de Jésus le maître de nos vies, libérés de tout ce qui pourrait nous détourner de la vie qu'il nous réserve, qu'il nous prépare, et ne pas faire de lui un simple invité.